Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 7, l'exode noir. Joris avait rassemblé les deux tiers des frères noirs à l'entrée des souterrains, après leur avoir donné l'ordre d'empaqueter leurs affaires et leurs outils et de se préparer à un long voyage. Lorsqu'il se présenta à eux, il constata avec une certaine amertume les dégâts causés par les trois dernières années. Au niveau physique, d'abord. Ces guerriers athlétiques étaient devenus pâles et maladifs. Leurs yeux brillaient fiévreusement dans des visages émaciés. Et au niveau de la discipline également. Bien qu'il ait réussi à maintenir la communauté d'une main assez ferme, l'emprise si particulière de Sornar s'en était allée, et si l'obéissance demeurait, les règles de silence, la perfection de la tenue, laissaient à désirer. C'était un étrange peuple ave qui l'envoyait coloniser un cimetière. Mais tout ne valait-il pas mieux que cette vie rampante dans l'enfermement humide des souterrains ? « Mes frères !» entonna-t-il de sa puissante voix de verbe, après s'être assuré que tous, à l'unisson, lui ouvraient leur esprit. « Il est temps pour vous de vous défroquer de vos hardes de terre, car notre maître a tracé pour vous un autre chemin. » Votre attente souterraine prend fin et voici le temps de la reconstruction en pleine lumière. Sur les ruines de la cité monastère, vous ferez revivre notre cité de l'ombre, sans oublier ses rituels d'entraînement, ses règles strictes et sa foi aveugle en notre maître. Pendant 12 révolutions terrestres, vous attendrez de jouer votre rôle lors de sa seconde incarnation. Il vous veut puissant par l'esprit et par le corps. Il vous veut dévoué jusqu'au fanatisme. Il puisera en vous son armée et vous serez la légion invincible de son pouvoir retrouvé. Car il renaîtra en pleine gloire et régnera du pouvoir temporel comme du pouvoir spirituel, maître des destinées des hommes, de l'immortalité et des puissances invisibles. Jusqu'à ce jour où il viendra à vous sous la forme de cet enfant, ne prenez ni femme ni chemin de traverse. Cultivez la terre, le corps et l'esprit, en offrande à votre maître qui chevauche le temps vers sa seconde incarnation. » L'enfant Sornar, momentanément possédé, fit un tour parmi les frères sombres, son regard flamboyant d'un éclat inquiétant. Puis il revint se placer auprès de Joris. « Fais émerger un chef, » dit-il d'un ton sans réplique. « Que ceux qui aspirent au commandement de la cité de l'ombre s'avancent et s'affrontent. » Il y eut un silence prolongé, pendant lequel Joris se demanda si les frères avaient compris ce qu'il leur disait. Leur absence absolue de réaction lui était parfois pénible, mais trois frères se démarquèrent du lot. Joris les reconnaissait bien. Cador, qui était son bras droit depuis 3 ans, avait un visage fin et un corps nerveux, une intelligence déliée et un sens aigu du devoir. Il constituait le meilleur choix, selon Joris. Fer, au corps trapu et grossier, à la poigne puissante, avait toujours eu une individualité plus marquée que ses frères. Le sacrifice de son indépendance lui avait pesé davantage. Il manifestait plus d'imagination dans les exercices, mais sa loyauté paraissait un peu plus fragile. Et enfin, Sist, ivre d'ambition et épris de pouvoir, qui excellait comme aucun autre au maniement de l'esprit et du verbe, d'une plastique parfaite, exception faite d'un œil perdu lors de ses premières années d'apprentissage. Les autres frères reculèrent et leur laissèrent la marge de manœuvre habituellement allouée au combat. « À la mort !» dit l'enfant Sornar. Joris considérait comme un sacrifice inutile la mort de 2 hommes de valeur, mais Sornar s'était exprimé. « À la mort » relaya-t-il de sa voix puissante. Les trois frères sombres ne s'étaient pas attendus à moins. Du moins, ils ne manifestèrent aucune réaction et commencèrent à tourner lentement en cercle, observant chacun des 2 autres, préparant sans doute mentalement son attaque. Allait-il opter pour la défense, pour l'attaque de l'un des 2 autres adversaires, ou pour une attaque groupée ? De ce choix entre 3 options allait dépendre leur destin, et aucun d'eux ne semblait vouloir se précipiter, bien que l'avantage de l'initiative fût incontestable pour la victoire. Joris soupesait les chances de son favori. Sist était certainement le plus prévisible, le plus impétueux, et choisirait probablement l'attaque. Il choisirait l'attaque de celui qui lui semblerait le plus fort des 2 au niveau de l'esprit, qui était son point fort. Il choisirait donc probablement d'attaquer Cador. Cador, prudent, choisirait probablement la défense. Et Fer, à l'imagination vive, ferait probablement les mêmes déductions que lui et hasarderait donc son premier coup en attaquant Syste. Les trois mouvements furent presque instantanés, tandis que Cador croisait les bras dans une prise de ce temps défensive, en évitant tout particulièrement le regard de ses adversaires, Syste déferlait sur lui, les yeux exorbités, pour lui porter un coup qui eût été mortel sans la parade anticipée. Avec un infime décalage dans le temps qui lui permettait de s'adapter à la réalité qui se déroulait sous ses yeux, sans pour autant perdre l'avantage, Fer fit un bond d'une ampleur et d'une précision admirable qui s'acheva dans le craquage rapide de la nuque de Syste. La mort, bondissante, avait frappé en un clin d'œil. Joris retenait son souffle. Il n'avait jamais misé sur Syste. La volonté de puissance est ennemie de la vraie puissance. D'ailleurs, lui, Joris, n'avait accédé à son statut que par l'obéissance la plus humble. Et Sornar n'était-il pas en train de perdre la tête en cédant à son tour à ce qui venait de tuer son disciple? L'ambition était meurtrière. Les deux frères survivants se toisaient maintenant, toujours tournoyants, dans une toute autre configuration de combat. Un duel ne se comparait pas à un combat à trois, c'était un combat plus classique, plus prévisible sans doute, mais où la chance intervenait encore moins. Fer le savait, et Joris vit dans sa concentration extrême qu'il ne se laissait pas griser par sa première victoire. Cador ne laissait rien filtrer, son sens du devoir contre le sens de l'indépendance de Fer. C'était là un combat intéressant. Joris se mit un instant à la place de Cador. Que ferait-il contre cet ennemi imprévisible? Il tenterait probablement de le circonvenir par le verbe. Lors d'un duel, en effet, les regards étaient presque obligatoirement rivés l'un à l'autre, et le verbe devenait une arme comme les autres. Pour résister, Fer devrait concentrer toute son énergie, et cela laisserait à Cador l'opportunité de lâcher prise à l'instant que lui déciderait, et d'infliger une blessure mortelle dans la demi-seconde qui suivrait. À peine avait-il songé à tout cela que, contre toute attente, ce fut Fer qui utilisa le verbe le premier, dès que leurs regards furent suffisamment en phase. « Abandonne !» enjoignit-il. Cador était puissant avec l'esprit, mais il dut malgré tout se mobiliser pour repousser l'injonction, et ce fut dans cette minuscule brèche que Fer s'engouffra. Il fut modérément puissant, mais suffisamment rapide, et le coup qu'il asséna du plat de la main dans la gorge de Cador suffit à lui faire perdre connaissance. Il appréciait Cador, mais il connaissait la règle. L'ordre avait été donné. Il l'acheva, lui aussi, d'une torsion vertébrale. Fer s'inclina profondément devant l'enfant. « Je jure fidélité à votre seconde incarnation, maître. J'emmènerai la tribu à la cité sombre et nous préparerons votre retour. » L'enfant Sornar, le menton très haut, fit un signe d'assentiment et Joris et Fer échangèrent un regard. « Pourquoi pas vous, Joris ?» demanda le nouveau chef après une hésitation. « Joris est attaché à ma personne présente, » dit l'enfant. « Partez maintenant !» Joris et Sornar regardèrent, impassibles, la horde blafarde se mettre en ligne. Fer les arrêta cependant avant d'ordonner le départ. Sa pierre frontale d'un orangé profond se mit à luire, se changea en faisceau, en ondes sinusoïdales, en rayons intermittents. Il paraissait fouiller les esprits de sa cohorte. « Frères, ouvrez-moi vos esprits !» Les frères s'exécutèrent, et pas un ne sourcilla. Lorsqu'il parut satisfait de son inspection mentale, Fer ordonna le départ, et une soixantaine d'hommes de toute taille, qui n'avaient en commun que leur absence d'expression et la blancheur livide de leur teint, se mirent en marche pour le second exode de leur histoire. Joris resta un moment silencieux dans l'immobilité retrouvée de ce coin de montagne, les yeux fixés sur les deux corps étendus et désarticulés, attendant que Sornar prît la parole, comme il l'avait toujours fait. « Penses-tu que Fer sera à la hauteur de la tâche ? Il a fait preuve de rapidité et d'intuition. Sa loyauté ? Je ne l'ai jamais prise en défaut, bien que j'eusse misé davantage sur celle de Cador. « Tout est donc pour le mieux, » trancha Sornar. « Tant que l'enfant me supporte, je dois te faire part des derniers événements d'Albâtre. Nous avons eu maille à partir avec les rescapés spiritualistes ce matin. » Joris ne cacha pas sa surprise. « Comment ? Ne t'en inquiète plus, j'ai maté cette tentative d'exorcisme. »« D'exorcisme ? Voulez-vous dire qu'ils auraient compris la nouvelle nature de votre esprit ?
Oui.
Ils savent que votre esprit se projette dans la ville, qu'il peut posséder les gens ?
Oui.
En tout cas, la jeune spiritualiste le savait.
Elle est morte ?
On ne peut plus morte, aussi morte que ces deux-là. Ne craignez-vous pas qu'on découvre votre couverture, que vous ne soyez pas à l'abri dans le corps de l'enfant ?
Sais-tu comment faire à gagner le combat ?
En anticipant sur ce qu'allait faire et penser ses ennemis. C'est toujours ainsi que l'on gagne les combats. Mes ennemis ne porteront pas la main sur un enfant de 3 ans, et surtout pas sur le leur.
N'est-ce pas un risque inutile à courir ?
Non, c'est un risque maîtrisé. Il me faut grandir en force, en toute sécurité. Il me faut préparer mon futur royaume et conquérir par ma faiblesse ce que je ne saurais conquérir par la force.
Joris, habitué à ne pas exprimer à voix haute ses objections quand il n'y était pas invité, se tut.
« Tu désapprouves !» remarqua l'enfant.
« Pourquoi ne pas partir loin d'Albâtre, grandir en secret et conquérir d'autres territoires quand le moment sera venu ?»«
Parce que je suis Albâtre, Joris. À chaque fois que l'enfant me recrache abruptement, je m'échappe dans ses replis et dans ses structures. Je ne puis m'éloigner d'Albâtre jusqu'à ma seconde incarnation. Après, je serai libre. »
L'enfant apprendra à parler.
Il est déjà presque détruit, Joris, et je l'occupe de plus en plus longtemps. Il aura quelques crises d'hébétude, de mutisme. Comment ne pas les lui pardonner, eu égard à sa terrible petite enfance?
Et l'autre enfant, et sa mère, ne sont-ils pas puissants avec l'esprit?
L'autre enfant, d'après les rumeurs, a perdu totalement l'usage de l'esprit, et si ce n'est pas le cas, il n'est certainement pas immortel.
Et à Eleanor ?
Je compte sur son aveuglement, et s'il lui reste un doute, sur ses scrupules.
Joris s'inclina comme pour mettre fin à la conversation. Il se dirigea vers le souterrain et donna quelques ordres pour disposer des deux corps. L'enfant s'attardait au dehors, méditatif.
« Tu me serais utile dans la place, Joris. »
Le frère repentit.
« Quelque chose dans ce goût-là. »
« Vous m'avez donné le choix l'autre jour. » Me jeter à leurs pieds pour demander pardon, ou mourir, vous devez vous en souvenir.
Oui.
Dans les deux cas, je vous aurais servi dignement.
Oui.
Je n'ai pas encore fait mon choix.
L'enfant sourit.
Tu me surprends, Joris.
Pourquoi ?
Parce que tu es capable de parler de ta propre mort, comme si elle était une option comme une autre. Je t'offre une chance de survie.
La survie n'est pas mon souci premier, maître.
C'est pourquoi tu me surprends.
Savez-vous comment faire à opérer ces choix ?
En s'accordant un très infime délai pour réagir à ce que feraient les autres.
C'est ainsi que j'entends prendre ma décision, moi aussi, sur l'instant, en fonction de tout le reste, si vous me le permettez, bien sûr.
L'enfant Sorna haussa les épaules.
Tu me serais utile, mais pas indispensable.
Joris s'inclina très bas, fit un salut protocolaire et s'éloigna de l'enfant qui rentrait dans le souterrain pour attendre auprès des cadavres avec lesquels il ressentait inexplicablement une soudaine proximité. Ils étaient là, transformés à jamais en matière inerte, petit tas de chair et de souvenirs éteints, lamentable figement d'existence silencieuse. Leurs visages, encore crispés par l'action et marquant éternellement la surprise de se voir ainsi finir, paraissaient s'entre-regarder tandis qu'une colonne de fourmis, impeccable et ordonnée, avait commencé leur ascension et se dirigeait vers leurs blessures. Noirs, sans âme, tendus vers un but collectif qui les transcendait et les organisait. Exactement, songea-t-il, comme la colonne de frères noirs qui s'était mise en route ce matin.